Je vais juste, puis on va revenir vers vous, faire une petite transition, donc de façon à ce que Madame le professeur Krebs puisse prendre place, en expliquant que, évidemment, la prévention, on aurait pu ou dû la placer à un autre moment dans la journée, d'autant qu'on a pris du retard, qu'on avait des contraintes d'agenda, donc on a choisi avec elle de la décaler. Il nous paraissait indispensable de nous confronter à ces questions de prévention, d'autant qu'elles ont donné lieu à quelques articles récemment plutôt à destination du grand public, et notamment sur les questions des facteurs prédictifs de la maladie mentale et de la façon d'aborder ces questions.
Voilà. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation qui du coup me place dans une situation à faire un exercice qui n'est pas tout à fait mon exercice habituel, c'est-à-dire de présenter non pas directement les travaux scientifiques mais plutôt les réflexions que ça amène sur notre pratique au quotidien. Alors c'est pas que je réfléchis pas à ce que je fais au quotidien dans mon service, mais je le présente un peu moins souvent à vrai dire. Voilà, donc ça me donne cette occasion-là et je vais essayer de dérouler dans un premier temps les réflexions que nous amène ce champ extrêmement nouveau et curieusement pas très présent en France, pour ne pas dire que nous avons un retard coupable. Alors pourquoi déjà une prévention ciblée de la psychose? Parce que on n'est pas très heureux avec les définitions habituelles de la prévention primaire, la prévention secondaire. Prévention primaire, c'est en population générale, mais vous supposez que les gens ne sont pas malades. Prévention secondaire, c'est quand il y a déjà eu des signes de la maladie. Et à vrai dire, dans le champ qui nous intéresse, il n'y a pas encore eu des signes de la maladie ou des maladies psychotiques, mais il y a déjà des symptômes, il y a déjà des troubles. Et c'est toute cette difficulté de situer ces populations qui sont déjà pas si bien que ça, déjà en demande, mais encore pas tout à fait malades. Je suis désolée, j'ai une fin de crève, donc je vais essayer de ne pas tousser trop jusqu'à la fin. Bon, la première des choses, c'est de se rendre compte que notre système, il a été fait essentiellement pour prendre en charge les patients qui sont malades. C'est un truisme, mais ça tombe bien. Mais ce qui veut dire, dans le cadre de la psychose, que dans le meilleur des cas, on est dès le premier épisode. Alors là, c'est des choses qui sont bien codifiées. On a des critères, on a des catégories de diagnostics sur lesquelles on peut discuter pendant des heures, mais sur lesquelles on se met à peu près d'accord qu'il faut mettre en place un traitement antipsychotique et ajuster le traitement et essayer de voir quels sont les facteurs de bon ou mauvais pronostic. Ça, le problème, c'est qu'un certain nombre d'études dans les années 80 ont montré que c'était pas suffisant en réalité, parce que ces études premier épisode, alors la principale c'est l'étude ABC qui ont donné à toutes ces publications de Daphner en Allemagne, ça a pointé très clairement que dans 75% il existe une phase dite prodromique, c'est-à-dire avec des symptômes qu'on aurait dû repérer, que cette période elle n'est pas négligeable puisqu'elle est d'environ 5 ans, qu'il y a plus de débuts insidieux, et puis surtout on a commencé à se rendre compte que plus la durée de psychose non traitée, ce qu'on appelle la DUP, Untreated Psychosis, ça veut dire avant que les symptômes de délire, d'hallucination soient complètement marqués, plus sa durée est longue, moins bon est le pronostic. Alors, ces études sont importantes parce qu'elles ont permis de montrer quels sont les symptômes qui précèdent le premier épisode psychotique. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas très, très spécifiques, comme l'anxiété, l'inquiétude, les symptômes thymiques, le manque d'énergie, les troubles de concentration, les troubles de l'appétit. Vous voyez que c'est un petit peu difficile de porter un diagnostic précis, catégoriel, sur ces seuls symptômes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la DUP, je vous la fais très très courte, mais aujourd'hui, il y a quand même des méta-analyses qui ont essayé de prendre en compte tous les facteurs confondants qu'on avait pu mettre en avant. On sait que cette durée de psychose non traitée est associée, non seulement à court terme, mais à plus long terme, avec un moins bonne réponse, et surtout une moins bonne capacité de réinsertion et de sortie, enfin d'outcome, c'est-à-dire de devenir global. Donc une altération sur le fonctionnement. C'est important parce que ça veut dire que c'est les patients qui vont être dans le système de soins et qui vont coûter. Pourquoi intervenir précocement ? Ça, j'ai listé un petit peu tous les arguments qui reviennent. Un retard à la prise en charge augmente le risque de suicide, de dépression, de consommation de toxiques, l'aggravation des troubles cognitifs, je vais y revenir, mais aussi tous les aspects sociaux, familiaux, comme la rupture familiale, la rupture affective, la désinsertion, la déscolarisation, le risque de licenciement, évidemment, et puis parfois avec des passages à l'acte très sévères. Et puis, sur le plan médical, plus on attend, moins bonne est la réponse au traitement. Moins bonne est l'insight, donc la capacité du sujet à s'engager dans les soins, et donc avec comme conséquence plus de rechutes. Donc finalement, la DUP, elle est peut-être biologiquement toxique, c'est de plus en plus probable, cette période de psychose non traitée, mais en tout cas, de toute façon, elle est socialement toxique, c'est-à-dire que ça a vraiment des conséquences à très long terme. Alors prendre en charge avant les premiers épisodes psychotiques, vraiment la question, c'est comment on repère les sujets qui nécessitent ce type de prise en charge. Donc j'ai listé un certain nombre de symptômes. Ils sont remis ici. C'est un petit peu les mêmes listes que précédemment. Simplement pour montrer que finalement, il y a quand même eu l'identification de certains facteurs de symptômes prodromiques précoces qui sont peu spécifiques, qui vont être le retrait. Alors, il faut se situer. Hein, on est dans la tranche 15-25 ans, donc en tout cas fin d'adolescence. Ou parfois 12-15 ans. ces indicateurs prodromiques précoces, retrait social, humeur dépressive, difficulté de motivation, diminution de la motivation, diminution de la concentration. Au passage, évidemment, c'est aussi la période dans laquelle ils prennent des substances, dont le cannabis, qui, par lui-même, induit le même type de symptômes. Et puis, des symptômes qui sont un peu plus spécifiques, qui commencent à nous attirer l'attention sur un discours circonstanciel, des croyances bizarres, des expériences perceptives inhabituelles. Et là, on est plus proche de la transition. Le problème, c'est que tous ces symptômes, y compris les symptômes psychotique-like, sont relativement fréquents. Dans cette étude, Magori, en 1995, avait recensé le nombre d'adolescents entre 15 et 25 ans qui avaient une pensée magique. Pensée magique, c'est par exemple de penser qu'ils sont déjà inscrits en fac alors qu'ils n'ont pas été jusqu'à l'administration, ou de penser qu'ils peuvent arriver à l'heure où ils partent de chez eux et tout en étant à l'heure. Bon, ceux qui ont des adolescents voient assez facilement de quoi il s'agit. Malheureusement, c'est aussi le cas dans certains nombres de nos équipes infirmières, pour dire les choses. Les plus jeunes, il faut se rappeler que ce sont des jeunes adultes et qui sont encore dans cette phase des 15-25 ans pour certains. Ce n'est pas le cas de tous, évidemment. C'est surtout pas non plus forcément quelque chose qui impacte sur le fonctionnement. Je ne vais quand même pas dire du mal des jeunes. En tout cas, c'est fréquent. Alors, un grand problème pour nous, soignants, c'est... que lorsqu'on parle de prodrome, c'est je vois un patient devant moi, puis je m'aperçois que finalement, ben, dès l'âge de 14 ans, il avait des petites difficultés, mais je sais qu'il a déjà un trouble. Le problème, c'est que quand vous vous situez devant ces sujets qui ont quelques symptômes prodromiques, ben, en fait, vous ne savez pas si c'est des prodromes ou si c'est juste une mauvaise passe. Vous ne pouvez dire, en fait, qu'il présente un état mental à risque, il présente des symptômes prodromiques, mais vous ne pouvez pas dire que c'est un sujet qui est prodromique et qui va déclarer la maladie. Parce qu'en réalité, la plupart des personnes qui présentent ces symptômes-là, je vous disais 50%, un adolescent sur deux a une pensée magique, eh bien, la plupart ne vont pas évoluer vers la psychose. Donc on a essayé de... Lorsqu'on se situe sur la partie la plus à droite, vous voyez l'épisode psychotique, vous voyez qu'il y a une progression avec une symptomatologie qui est croissante et qui se modifie progressivement avec plus de symptômes spécifiques. Mais la réalité, je ne sais pas où j'ai mis ma diapositive, voilà, c'est celle-là, excusez-moi. La réalité, c'est que le risque de présenter un trouble, un premier épisode psychotique, en ayant eu ces critères de ultra haut risque de transition psychotique, il est loin d'être 100%, puisqu'il est d'environ, on va dire, un tiers à 3 ans, plus simple à retenir. Ce qui laisse quand même 70% des personnes sans épisode psychotique. Et le pire, enfin, ou le mieux, puisque en réalité, on pense que c'est en partie parce que ce qui est mis en place est efficace, dans les centres qui ont mis en place des programmes de case manager, on va en parler un petit peu, des prises en charge spécifiques pour ces populations à très haut risque, eh bien, on voit une diminution du taux de transition. Alors, c'est soit parce qu'ils viennent plus tôt, et donc ils sont moins malades, soit parce que ça commence à être efficace. Probablement un peu des deux. En tout cas de cause, la vraie notion à retenir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des symptômes dits prodromiques, considérés comme à ultra haut risque, qu'il va y avoir l'émergence d'une pathologie sévère. Alors, je parlais des symptômes, je vais revenir rapidement. Bien sûr, ça veut dire que si on a de nouvelles catégories, on a besoin de nouveaux outils, et se développent des outils qui permettent de repérer cette symptomatologie très, très fine. Le problème, c'est qu'évidemment, ce n'est pas facile à dépister et qu'il va falloir un savoir-faire et puis un peu de temps, parce que c'est des symptômes qui sont tellement subtils que les sujets ne s'en rendent pas toujours compte ou ne sont pas forcément bien repérés. Et puis, bien sûr, on définit des critères pour la transition psychotique, bon, peu importe, ça, ce n'est pas très important. Alors, lorsqu'on se place cette fois-ci dans cette situation de l'état mental à risque, on ne peut que le penser. J'ai un doute, je crains que vous puissiez évoluer vers telle ou telle chose. Ce n'est pas non plus facile à faire passer aux jeunes ou à la famille. Un certain nombre les enjeux, ils ne sont pas tout à fait les mêmes que précédemment devant un premier épisode psychotique. D'abord, vous êtes moins sûr de vous. Donc, il faut jouer avec votre doute. La deuxième chose, c'est que vous vous dites, est-ce qu'il faut psychiatriser ? Est-ce qu'il ne faut pas trop psychiatriser ? Quelles sont les conséquences éthiques ? Et puis surtout, comment je peux adapter ce que je propose, les services que je propose, à la situation du jeune, en fonction de l'avancement dans une possible maladie ou non, et en fonction de son contexte. Mais bien sûr, nous, médecins, on cherche à se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer notre capacité d'épicer ceux qui vont effectivement évoluer vers la maladie, ne serait-ce que pour optimiser les prises en charge, mais aussi pour essayer d'avoir, une approche qui soit spécifiquement préventive, comme on le fait lorsqu'on dépiste le cancer du poumon sur une simple prise de sang, semble-t-il. Alors, si on, deux mots de justement, est-ce qu'on peut imaginer avoir des marqueurs prédictifs de l'évolution ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pistes. Les travaux dans la littérature internationale avancent. Ce qu'il faut comprendre d'une manière générale, c'est que c'est une situation complexe. On sait l'évolution, là c'est une figure assez, assez connue d'un article de Thomas Insel dans Nature, qui montre l'évolution, la partie haute, c'est l'évolution de ce qui se passe chez un adolescent normal, enfin standard. Vous voyez qu'il se passe un certain nombre de choses, et surtout vous avez ce croisement de courbes, l'un c'est la diminution des synapses excitatrices et l'autre c'est l'augmentation des synapses inhibitrices. Bon, peu importe le détail, ce qu'il faut retenir c'est que cette période de la vie est associée naturellement, physiologiquement, à d'immenses remaniements qui ne sont pas tout à fait synchrones en fonction des différentes formes, des différentes phases, et notamment les parties les plus antérieures sont matures le plus tardivement, ce qui veut dire que le comportement va s'en ressentir. Et au fond, l'apparition des troubles troubles schizophréniques, cette fois-ci, est associée, a priori, à une majoration de la diminution de la perte neuronale et donc de la substance grise, mais également à une mauvaise formation de la substance blanche. Donc, on commence à avoir des idées sur ce qui est en train de se passer sur le plan cérébral pendant cette période-là. Alors, le cerveau, c'est bien. L'imagerie permet d'avoir accès à un certain nombre de ces marqueurs. Aujourd'hui, on a du mal à se replacer à l'échelle de l'individu simplement avec de l'imagerie, mais probablement, on va y réussir. J'ai mis mes diapos un petit peu dans le désordre. Voilà, donc ça c'est un résultat très, 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 très récent qui montre que vous avez, lorsque vous comparez, alors je vais vous le lire ici, quand vous comparez les barres bleues les plus à gauche, c'est ceux qui font une conversion psychotique avec médicaments, et puis la barre rouge juste à côté, c'est ceux qui font la conversion psychotique sans médicament. Enfin, c'est l'inverse, mais c'est la même chose. Donc, vous voyez que finalement, qu'il y ait médicament ou non, ça ne change pas grand-chose. Et ce qu'on observe ici, c'est que la perte que vous observez, la perte de substance grise qu'on observe dans le cortex préfrontal, qui est toute la partie de planification et du contrôle de l'action, est beaucoup plus importante chez les sujets qui font la conversion lorsque vous le comparez aux petites barres vertes et violettes, c'est-à-dire les sujets à haut risque qui ne vont pas faire la conversion psychotique. Donc il se passe vraiment quelque chose pendant cette conversion psychotique, ce qui va dans le sens de cette période-là est associée à quelque chose de biologiquement marqué. Ça, c'est un schéma que j'utilise généralement pour essayer de montrer que ce n'est pas la situation elle est complexe, et qu'à la fois il se passe une évolution, la maturation physiologique de l'adolescence sur des désordres liés au développement précoce et à l'environnement précoce, et à certains facteurs génétiques dans un certain nombre de cas. Et puis, au cours de la vie, pendant l'adolescence, vous avez une évolution, soit vers le fait qu'ils restent un peu vulnérables, ils sont un peu schizotypes, ils ont telle ou telle forme de caractère, soit vers quelque chose qui tourne vers la maladie. Et ça, c'est sous le contrôle de la maturation, de l'environnement, et puis parfois d'un certain nombre de facteurs, comme le stress ou comme les facteurs, les consommations de substances comme le cannabis, qui est aujourd'hui montré comme étant un facteur x2 de risque de transition psychotique. Alors, quelle stratégie, quand on s'intéresse à tout ça, en fait, on pourrait lister, il y a bien une bonne demi-douzaine de questions qui nécessiteraient en elles-mêmes un champ de recherche. La première des questions qu'on se pose quand on essaie de mettre en place ce type de programme, c'est comment je peux faire pour améliorer l'accès. Nous avons donc des adolescents avec des signes subtils. Globalement, ils sont plutôt dans les lycées et ils ne sont pas en train de courir. Et surtout, ils n'ont pas envie d'aller voir un psychiatre. Et leurs parents, surtout, pas l'hôpital psychiatrique. Quelle horreur. Et clairement, les programmes qui sont mis en place au niveau international ont beaucoup, beaucoup fait de travail sur le système d'adressage. Et alors là, on a peut-être des atouts à mettre en valeur en France par la sectorisation et l'aspect territorial de notre organisation, puis aussi par l'information. Alors là, on est très en retard parce que les gens supportent assez peu les spots qui leur font peur, les spots d'information qui leur font peur. Voilà, donc ça, c'est assez important. Globalement, la première des choses, c'est qu'il faut diminuer cette stigmatisation qui est associée avec la psychiatrie, les malades psychiatriques, les psychiatres, les directeurs d'hôpitaux, etc. C'est-à-dire que la psychiatrie, dans son ensemble, est stigmatisée. Petite anecdote, on travaille avec la Fondation des étudiants de France qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Philharmonie, qui permet aux professionnels des lycées d'appeler quand ils ont une situation complexe dont ils ne savent pas trop quoi faire. Et régulièrement, comme réponse, quand elle dit « oui, là, ben, vous devriez quand même l'adresser à un professionnel », la réponse de alors, c'est CPE, infirmière scolaire ou autre, qui lui dit « oh là là, il ne va pas bien, vous ne voulez pas en plus qu'il aille voir un psychiatre ?» Comme si nous allions l'aggraver nettement. Mais c'est quand même, c'est une réponse, hein, c'est une réalité. Voilà, alors c'est un vrai, vrai challenge sur lequel il faut réfléchir. Et globalement, il faut imaginer des structures qui soient à la fois spécialisées, mais non stigmatisantes, pour éviter hôpital psychiatrique, centre schizophrénie. Voilà, ça va pas bien marcher. Pour donner l'exemple de ce qui se passe en Australie, mais là, c'est un petit peu différent aussi en termes de répartition sur le territoire. En gros, ils ont une petite boutique dans les malls, c'est-à-dire dans les centres commerciaux. Une boutique pour l'ado où il vient chercher des informations. C'est pas si loin du dispositif. Ça y est, j'ai plus le nom en tête. Bon, ça va revenir. Voilà. En tout cas, il faut faciliter, avoir des structures non stigmatisantes. Après ça, il y a une question qui est une question là, très biologique, qui est celle comment on améliore le repérage, bon, en formant les gens certainement, mais aussi éventuellement avec des marqueurs prédictifs. Alors, on a eu une publication là, qui est sortie cet été, qui a été effectivement un petit peu publicisée au niveau de la grande presse, sur la base d'un prélèvement biologique et avec des dosages, l'ensemble des dosages est fait de façon assez technologique avec la collaboration avec l'Université de Cambridge, mais finalement, les marqueurs sur lesquels on tombe sont des choses assez, assez bien connues. Avec 22 marqueurs permettaient de prédire l'évolution vers la conversion psychotique d'un certain nombre de patients qu'on avait inclus et pour lesquels on avait des prélèvements dès le début du suivi. Donc, bien sûr, c'est à vérifier, bien sûr, ça informe simplement sur le fait que ce n'est pas inenvisageable d'avoir des marqueurs biologiques qui un jour permettront, ça doit être répliqué, cette étude, avant tout. En tout cas, c'est pas inenvisageable d'avoir des outils qui nous permettent de faciliter le repérage de ceux qui évoluent vers un trouble psychotique, schizophrénique en l'occurrence, même si, évidemment, il ne s'agit pas de faire ça en population générale et de dépister la personne à la naissance, puisque d'abord, ce serait probablement très faux. Et cette très bonne prédiction, elle est liée aussi à la clinique associée. Alors notre problématique de médecin, c'est que est-ce qu'il faut traiter des patients qui sont comme ça, juste aussi symptomatiques, dont on a du mal à voir la sémiologie et à la catégoriser. On est devant quelque chose où on a d'un côté une évolution qui n'est pas déterminée, et de l'autre côté, des traitements dont on sait qu'ils présentent des effets secondaires. Lorsqu'on prend les revues Cochrane, vous savez, ces méta-analyses qui sont mises à jour régulièrement, aujourd'hui, très clairement, la taille de l'effet des effets secondaires des antipsychotiques est supérieure à la taille de l'effet positif. Donc globalement, on sait que lorsqu'on prescrit avant le premier épisode psychotique un traitement antipsychotique, on est plutôt du côté des effets secondaires que du bénéfice. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas du tout traiter ? Évidemment non. Et là, ce que j'aimerais introduire, alors déjà, une première chose qui est le concept de stade clinique, c'est-à-dire qu'on va définir un traitement non seulement, enfin, on va définir un traitement en fonction du stade d'évolutif clinique, un petit peu comme on a dans le cancer, stade grade 1, grade 2, grade 3. Et quand c'est in situ, on ne vous retire pas tout, etc. etc. Ici, on va très vite s'apercevoir en même temps qu'un certain nombre des pratiques qui sont, et des traitements, des stratégies thérapeutiques qui sont proposées, sont en fait des choses qui peuvent être proposées très tôt, y compris chez les gens post-symptomatiques, comme la psychoéducation familiale, les thérapies cognitives et comportementales, et bien sûr la réduction active des drogues. Quand on fait ça, on est déjà en train de faire de la prévention. Je ne vous apprends peut-être rien. Mais chez ces sujets à haut risque, c'est encore plus important de le faire. Il faut renforcer et donc se donner les moyens de toucher sa cible. Ce qui est important de noter ici, c'est que ces catégories, stade 0, c'est la parenté qui n'a pas de. La parenté premier degré, un fils de patient que vous connaissez, qui n'a aucun symptôme, il est stade 0. Vous allez éventuellement lui faire un peu plus d'éducation, prenez pas trop de substances, etc. etc. Stade 1A, c'est des symptômes légers non spécifiques, mais déjà avec un déclin fonctionnel, avec une plainte. Et stade 1B, c'est là vraiment ce qu'on appelle les sujets ultra haut risque, avec des symptômes infraluminaires et puis un déclin fonctionnel. C'est-à-dire que ces patients-là sont déjà des personnes qui ont une difficulté de fonctionnement. Puis bien sûr, le premier épisode, vous rajoutez tout ça et vous rajoutez des traitements antipsychotiques. Alors il y a une autre notion qui est importante à avoir en tête, et vraiment ça c'est quelque chose qui évolue dans le domaine, c'est que tous ne vont pas évoluer vers un trouble psychotique, mais en réalité, la plupart ont un mauvais fonctionnement à terme, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que des adolescents standards qui n'auraient pas eu cette phase de difficulté. On est donc devant devant une situation où on a des sujets à ultra haut risque, mais ce risque n'est pas uniquement le risque de psychose. D'abord, il peut évoluer vers, je ne sais plus où j'ai mis la diapo, voilà, ici, excusez-moi, pour se remanier les diapos, je les ai mélangées. D'abord, on sait qu'il y a le risque de psychose, mais il peut aussi y avoir une évolution vers un trouble dépressif, vers un trouble bipolaire, y compris après un premier épisode, vers une rémission, bien sûr, mais aussi vers un certain nombre de troubles, y compris des troubles anxieux, troubles post-traumatiques, par exemple, qui peuvent se présenter parfaitement avec ce type de symptomatologie. Donc il y a un risque. Le pronostic fonctionnel à long terme de ces sujets à ultra haut risque n'est pas très bon, avec un déclin qui persiste, même si les symptômes ne sont plus là. Et donc il faut faire quelque chose. Et là où ça rejoint certaines des communications que vous avez eues ce matin, c'est que, en fait, on va avoir une vision fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est pas le sujet simplement avec le symptôme. On n'attend pas le symptôme psychotique pour commencer à mettre un antipsychotique. On fait une évaluation qui est une évaluation pluridisciplinaire, fonctionnelle, notamment sur les dimensions cognitives, mais plus largement sur est-ce qu'il arrive à se débrouiller pour avoir la bonne section, pour savoir se mettre sur la bonne, bien remplir son APB, etc., etc. Et donc c'est la question de la rémission fonctionnelle et de la recovery, c'est-à-dire le fait de recouvrer ses capacités fonctionnelles. Et ça, en fait, c'est important parce que finalement, c'est bien sûr très important pour les patients souffrant de schizophrénie, mais ces troubles fonctionnels et ces troubles cognitifs qui amènent à des troubles fonctionnels sont très précoces et sont avant même le premier épisode psychotique. Donc on rejoint cette question de remédiation cognitive, réinsertion, de case management, c'est-à-dire d'une personne qui va l'aider non seulement sur le plan à assurer le traitement sur le plan médical, mais également dans d'autres dimensions. Donc finalement, les objectifs d'un traitement vont être des objectifs qui vont avant tout être d'améliorer le pronostic fonctionnel. Très longtemps, la thématique, le leitmotiv de ce domaine était « il faut réduire la durée de psychose non traitée ». Ça reste vrai, hein, puisque ça reste important. Mais il faut aussi améliorer le pronostic fonctionnel et identifier tous les risques. Il n'y a pas un seul risque, ce n'est pas seulement le risque d'avoir un trouble psychotique. Il faut identifier les autres risques, que ce soit les risques suicidaires, les risques de dépression, les troubles cognitifs méconnus, notamment ces sujets qui ont un trouble intentionnel, parfois très ancien, mais qui était suffisamment mineur pour qu'il ne lui pose pas de problème en primaire, mais qui arrivait en seconde, où on lui demande de s'organiser, là, ça ne passe plus. Bien sûr, le cannabis. Bien sûr, la gestion du stress. Je l'ai mentionné rapidement, on a une forte suspicion qu'il y ait une modification de la gestion du stress chez ces patients-là. C'est probablement pas spécifique de la prévention de la psychose, mais c'est une valeur sûre pour améliorer le pronostic et la capacité adaptative de la personne. Et puis il y a tout ce qui est le soutien en général sur le plan scolaire, sur le plan familial, les thérapies familiales et tous les groupes qu'on peut proposer du type habileté sociale, affirmation de soi, etc. etc. Donc finalement, toutes ces modalités de traitement sont recommandées, on sait le faire déjà, et ont un bénéfice fonctionnel. Lorsqu'on regarde les méta-analyses Cochrane, on sait que si vous faites à la fois de la thérapie cognitivo-comportementale de la remédiation cognitive ou l'entretien motivationnel, il y a une amélioration significative chez ces sujets à ultra haut risque. Puis sans oublier tout ce qui est alimentation, sport, sommeil, tout ça, ça va ensemble. C'est finalement l'adolescent, le cerveau de l'adolescent est aussi soumis à tous les dérèglements physiologiques de l'adolescence, y compris les troubles alimentaires et les carences relatives dans un certain nombre de composés, comme les folates, par exemple. Sur le plan spécifique, quel serait le traitement de la prévention psychotique ? Ben, on ne sait pas tout à fait, si ce n'est que pour l'instant, ce qui donne plutôt des bons indices, ce sont des neuroprotecteurs. Alors, on a beaucoup parlé des oméga-3, c'est encore un petit peu en discussion, mais on a parlé du lithium, mais ce n'est peut-être pas si montré. Les antidépresseurs pourraient avoir un risque protecteur vis-à-vis de l'émergence de la psychose. On est en tout cas dans ce spectre de dire améliorons la capacité du sujet à gérer et à répondre au stress et on devrait améliorer le risque, on devrait diminuer le risque de transition psychotique. Nous, localement, on a mis en place un PHRC justement la mise en évidence de TCC, gestion du stress, peut-il diminuer les symptômes psychotiques ? Rendez-vous dans quelques années. Alors, ce qu'on avait fait, je ne sais pas où j'en suis de mon temps, un petit peu de temps, pas trop, 5 minutes. On a mis, juste pour citer un peu l'équipe très dynamique que j'ai la chance de... Je ne sais pas si je la dirige, mais enfin, en tout cas, coordonnée, on va dire, qui est l'équipe du CEJAD, Centre d'évaluation jeune adulte. Ils sont tous jeunes et souriants, comme vous le voyez. C'est une consultation qui a pignon sur rue quand il n'y a pas Vigipirate. C'était avec un accès direct sur la rue. Ça pose problème. Un petit rien comme ça. Et au fond, on a un certain nombre de personnes qui participent. Vous avez les premiers noms sont des médecins, les deuxièmes noms sont des psychologues. Le rôle des psychologues pour l'évaluation est essentiel. Vous allez, je crois, écouter ma collègue Isabelle Amado. Cette évaluation neuropsychologique qu'on met en place, elle est valable pour ces jeunes dès ce moment-là. Et puis, notre difficulté, si on doit faire une analyse, puisque monsieur le directeur de l'hôpital Sainte-Anne est ici présent, je vais faire ma wishing list en même temps. C'est vrai que la grande difficulté, c'est qu'au fond, si on veut appliquer ce qui est proposé, c'est-à-dire le case management, on aurait besoin d'avoir une équipe plus pluridisciplinaire que ça. C'est-à-dire on aurait besoin, idéalement, il faudrait qu'on réussisse à constituer et à conserver avec une certaine pérennité des travailleurs sociaux dédiés à cette activité-là, plus d'infirmières, parce que le rôle de case management est typiquement pas ni le rôle des neuropsychologues, ni le rôle des médecins. Donc là, nous, en tout cas, on a réussi très, très bien. On est très fort maintenant pour faire de l'évaluation, pour faire des préconisations thérapeutiques. Mais sur le case management, on a encore des choses à faire avec une diversité des intervenants. Ce qu'on propose, c'est un parcours en 4 temps, une première consultation, beaucoup d'informations, une évaluation standardisée et puis un temps de restitution qui est très important pour réussir à caler notre vision avec celle du jeune. Qui est sans arrêt en train de se dire est-ce que je suis déjà malade ou pas, mais qu'est-ce que vous me proposez là, et qui a besoin de comprendre le niveau de communication qu'on souhaite avoir avec lui, c'est-à-dire nous craignons que les choses évoluent mal, mais il y a des choses à faire pour que ça évolue mieux. Attention, vous avez les choses, vous avez un certain nombre de possibilités entre les mains et il faut absolument agir sur plop, 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 et on déroule un petit peu les points sur lesquels on a considéré qu'il y avait des choses à faire. Et bien sûr un suivi, une réévaluation. Alors on s'est posé la question sur notre centre de comment les gens arrivaient aux soins. L'accès aux soins, c'est très compliqué. On a cité le degré de stigmatisation, c'est aussi la question de la connaissance sur la santé mentale en population générale, généraliste compris, ce qui n'est pas le fort de la France, la question de l'offre de soins disponibles, avec parfois des bagarres sur ces jeunes adultes, puisque c'est très gratifiant, et on voit finalement une coordination qui est insuffisante entre tout ce qui est proposé. Alors Paris est particulier, parce qu'on a plutôt pléthore de structures qui disent toutes savoir s'occuper de cette tranche d'âge-là, et qui en réalité n'assurent que très difficilement une continuité. Si on prend, on a une cohorte donc de 350 personnes jeunes qui ont été incluses et qu'on a évaluées. Et théoriquement, on devrait avoir beaucoup de généralistes. Alors, vous ne voyez probablement pas. Le grand triangle bleu, c'est les adressages directs, c'est-à-dire c'est le site web, c'est le bouche à oreille. La partie verte en bas, c'est les psychiatres. Donc, en fait, c'est principalement les professionnels qui nous les envoient, c'est principalement les psychiatres. 15% les urgences, mais pas mal de nos médecins qui sont aux urgences. Et puis, les généralistes, c'est 8% exactement. Vous voyez que c'est très très peu et que c'est clairement insuffisant et qu'on a un travail à faire localement. Ça, c'était un petit peu, là aussi, vous n'allez pas lire tout le détail, mais ceux qui n'ont rien comme comorbidité, en plus d'être à risque, c'est 16%. Tout le reste, ils ont des troubles anxieux, des TOC, des troubles alimentaires, de l'abus de substances, etc., etc. Tout ça pour dire que c'est pas juste... Quand on s'occupe d'eux, on ne perd pas notre temps. Ils sont déjà en difficulté. Sachant que nous, probablement, on attire des personnes qui vont quand même clairement pas très bien. Ils ont déjà rencontré des professionnels, c'est-à-dire que... Pardon ? Non, c'est pas illogique. Mais ce qui est illogique, c'est qu'il n'y a pas forcément de continuité de soins derrière. C'est ça, là, vraiment, enfin, pour vous le faire dans 30 secondes, c'est qu'ils voient un tas de gens et puis finalement, il n'y a pas vraiment de programme qui soit mis en place. Donc finalement, l'argent qu'on pourrait dépenser pour la prévention, on le dépense déjà, mais sans avoir vraiment un bénéfice dans une sorte de continuité. Donc ils voient un tas de monde, et notamment des psychiatres et des généralistes, ça c'est aussi un peu tautologique puisque c'est les psychiatres qui nous adressent pour l'instant. Et puis ils reçoivent des traitements. Alors où est-ce que c'est en bas ? Non, et surtout ils sont hospitalisés. Donc, chez les sujets à risque, il y en a quand même 38% qui ont déjà été hospitalisés pour des troubles psychiatriques. Alors, c'est généralement des tentatives de suicide. C'est-à-dire ni plus ni moins que ceux qui arrivent avec déjà les critères de premier épisode psychotique. Vous avez en deuxième colonne, 38% aussi. Et puis, les sujets non à risque, ils sont déjà aussi bien, bien sévères, puisqu'il y a 30% qui ont déjà été hospitalisés, ce qui est quand même pas rien. Quant aux psychotropes, 70% en ont reçu, quelle que soit la catégorie. Donc il y a les sujets à risque, ceux qui ont déjà franchi le seuil de psychose quand ils nous arrivent, et puis ceux qui ne remplissent pas les critères, qui sont essentiellement anxieux et dépressifs. Ce qui est surprenant, c'est que tout ce petit monde-là, en France, on prescrit beaucoup d'antipsychotiques, et finalement, les antipsychotiques, notamment tertian largactyl, il y en a déjà 10% qui en ont reçu chez les sujets à risque. Donc on est déjà loin des guidelines qui sont recommandés. D'ailleurs, chez les anxieux aussi. Il y a 10%. C'est étonnant. C'est un quart qui arrive avec les critères de premier épisode psychotique. Ont reçu des antipsychotiques. Ça ne nous chagrine pas. Mais les sujets à risque ou non à risque, il y en a plus de 10% qui en ont reçu. Voilà, ça, j'en ai parlé rapidement. Alors, pour synthétiser un petit peu les choses, puis je vais juste revenir quand même sur les guidelines qu'on a aujourd'hui. Donc, en conclusion, la première des conclusions, c'est que effectivement, il y a des données evidence-based pour dire qu'il faut réduire la psychose non traitée, que ça a un risque sur le pronostic des patients qui vont faire une transition psychotique. On a aussi aujourd'hui la notion que même ceux qui n'évoluent pas vers la psychose ont un risque fonctionnel déjà engagé et qu'il faut pouvoir adapter nos prises en charge. Il faut pouvoir améliorer notre capacité à prédire le risque de transition et puis il faudrait avoir des médicaments spécifiques de cette phase-là. Globalement, tout ça ne peut se faire réellement qu'avec une évaluation spécialisée et pluridisciplinaire, que ce soit scolaire, familial, biologique. Je vous ai passé le fait qu'un certain nombre des jeunes patients qu'on a vus présentent des troubles métaboliques méconnus, dont certains sont curables. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, avec des déficits en folate massifs, des choses comme ça. Ils vont tout de suite mieux quand on les traite. La conclusion numéro 2, c'est qu'en attendant d'en savoir plus sur les traitements très spécifiques, on sait qu'ils nécessitent des soins, et on sait que on sait déjà faire un certain nombre, on sait mettre en œuvre des stratégies qui sont efficaces, comme la remédiation cognitive, comme éventuellement, comme je le citais, certaines maladies métaboliques qu'on va pouvoir traiter, mais surtout thérapie motivationnelle contre le cannabis, gestion du stress, accompagnement scolaire, thérapie familiale, lutte contre la dépression et le suicide, etc. Antipsychotique, c'est à partir du moment où il y a vraiment un premier épisode, sauf évidemment quand il y a une situation d'urgence aiguë. Voilà. Et les antidépresseurs et les antistress seront probablement une très bonne piste. Des questions très spécifiques à ce domaine, c'est finalement pour les médecins d'accepter de traiter sans certitude diagnostique, ce n'est pas complètement évident. On le fait très bien dans le cancer, hein, cela dit. On n'attend pas que vous ayez un mélanome avant de vous retirer un grain de beauté. Le rapport bénéfice-risque est clairement à envisager différemment. Se pose en France le problème de cette tranche d'âge frontière, puisque on est en plein entre la pédopsie et la psy adulte. C'est pas très simple. On sait que la pédopsie peut aller jusqu'à 25 ans. On sait que nos services adultes reçoivent à partir de 16 ans, 15 ans parfois. Mais c'est pas si évident et on s'occupe pas des ados de la même manière. L'accès aux soins est crucial. Le case management, c'est l'idée d'avoir un référent, un accompagnant. Alors dans les programmes qui prévoient un accompagnement intensif, c'est 6 patients pour une personne maximum. On en est évidemment loin et c'est évidemment coûteux, clairement. Et puis, bien sûr, il faut améliorer la connaissance et diminuer la stigmatisation en population générale et auprès des généralistes. Alors, il y a aujourd'hui quand même, il n'y a pas des guidelines, des recommandations aussi claires que pour la mise en place d'un traitement antipsychotique, mais il y a un certain nombre de recommandations, dont celle de la NICE, comme vous le savez, c'est un organisme indépendant anglo-saxon, qui a très clairement, donc ça c'est celle qui a été édité en 2014, qui a très clairement dit détresse du fonctionnement social plus symptômes psychotiques atténués ou expérience subjective évoluant une possible psychose ou parents du premier degré avec une psychose de schizophrénie, ça veut dire qu'il faut l'adresser à un service spécialisé. Tout ça, c'est les noms, peu importe. Et puis, il faut mettre en œuvre TCC, thérapie familiale, traitement des troubles anxieux, dépressifs, traitement des troubles de personnalité, des addictions, et ne pas traiter par antipsychotique. Sauf s'il y a urgence et à partir du moment, bien sûr, où il y a un trouble psychotique. Donc ces recommandations, elles ont quand même été faites et elles existent et on peut se reposer là-dessus. L'autre élément qu'il souligne, c'est que le traitement doit être acceptable et notamment doit être plus bénéfique que néfaste et qu'il faut garder ça en tête. Et bien sûr, avoir en tête aussi cette question éthique de risque de stigmatisation et donc proposer, favoriser, par exemple, on parlait de case management et de les aider à retrouver leur vie d'adolescent ou de jeune adulte normal, entre guillemets, et bien il faut favoriser le fait de plutôt les accompagner dans des associations pour faire du sport à l'extérieur de l'hôpital et pas forcément en CATTP, dans des activités thérapeutiques. Donc c'est vraiment de sortir les patients dans la vraie vie. Et puis, il préconise un suivi pendant 3 ans avec une intensité pour les relancer lorsqu'ils sortent du suivi. L'APA a fait aussi quelques recommandations où elle dit en grosso modo la même chose. Ce que je veux dire simplement, c'est que même s'il y a encore beaucoup de questions, clairement aujourd'hui les recommandations. Alors il y a un point qui probablement, et je vais finir là-dessus, peut faire réagir, c'est la question de est-ce que c'est rentable aujourd'hui de s'occuper de ceux qui ne sont pas encore malades alors qu'on a déjà beaucoup de mal à s'occuper de tous ceux qui sont malades. C'est une vraie question. C'est une vraie question, on ne se la pose pas pour le cancer. Voilà. Et donc il y a peu de données sur ce que coûte, ce qu'on gagne, entre guillemets, en quoi c'est rentable. Sauf les travaux publiés par Martin Knapp, donc de la London School of Economics, qui a sorti plusieurs rapports, dont celui-là en 2012 et le dernier, c'est Investing in Recovery. Et ça fait aussi le lien avec la question de la remédiation cognitive, de la réinsertion. Et en termes de... Je vais vous passer ces choses-là. En termes d'investissement, la conclusion, c'est que l'analyse montre que lorsque vous investissez une livre, en l'occurrence, dans l'intervention précoce, la détection précoce, vous en économisez 15. Alors évidemment, ce n'est pas immédiat. C'est ça le problème. Mais ça demande une vraie décision politique. Et puis, il souligne de la même manière que le plus tôt on détecte et on prend en charge les patients avec une schizophrénie ou avec un trouble psychotique, les meilleures sont les chances de récupération et de rémission fonctionnelle. Voilà. Et on a vu ce changement dans d'autres domaines de la médecine, comme le traitement du cancer. Donc voilà, nos jeunes patients, ce n'est pas des cancéreux, mais ce sont des personnes qui ont un risque avec une maladie qui est aussi sévère et aussi impactante sur leur vie que ces maladies chroniques sévères. Donc là, il y a un tas de monde. Tous ceux qui sont en bleu, c'est des cliniciens. Les autres sont des non-cliniciens. Tous nos travaux sont le fruit d'un travail en équipe. Et puis, je vais faire un tout petit peu de publicité pour 2 choses. D'abord, le livre sur les signes précoces qui a été fait par l'équipe. Et puis, les journées annuelles que nous essayons d'organiser pour essayer de pousser l'information qui sont ouvertes à tout le monde. Pour essayer de pousser l'information sur ce domaine de la prévention et de l'intervention précoce. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup de votre brillant exposé et de nous avoir stimulé intellectuellement alors qu'on a commencé plutôt tôt ce matin et encore plus pour ceux qui sont partis de leur province. On va vous garder à la tribune peut-être 2 secondes s'il y avait quelques questions ou remarques. Moi, je voulais vous remercier aussi d'avoir fait le lien avec ce matin. Il y a des raisonnements, effectivement, qui sont transverses, si ce n'est globaux. Vous aviez aussi la lourde tâche de nous démontrer qu'il fallait revenir demain, puisqu'on va continuer. Et que je pense que les sujets de demain matin qui vont revenir, y compris sur ces questions, pas sous d'autres angles, méritent qu'on s'y intéresse. Juste une remarque. Je rappelle que l'objectif de nos journées cette année, c'était quand même de démontrer qu'on n'est pas dans un flou total, qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a des choses qui sont pensées, qui sont structurées, que la recherche, elle progresse, etc., etc. Je ne vais pas vous faire l'article. Et que nous pouvions, dans nos projets médicaux, pas seul évidemment, pas seul directeur, en tirer des choses, en tirer des bénéfices, et qu'il y a quand même moyen, me semble-t-il, de chercher, j'utilise ce barbarisme, mais à parier en quelque sorte ce qui relève effectivement de la clinique, de l'évolution des savoirs, des connaissances, avec ce qui va relever plutôt du champ des organisations, des parcours, de l'offre de soins, et qu'après tout, ceci est au moins partiellement à notre portée dans nos établissements, et que cet effort qui relève des projets médicaux et des projets d'établissement, il est aussi devant nous. Donc moi, je voulais aussi vous remercier. Et puis, oser une question qui est peut-être un peu benoîte, mais est-ce que, si on considère sur le sujet que vous avez exposé ce qui existe aujourd'hui, et si on essaie de faire aussi évoluer l'existant pour ne pas nous contenter de rajouter à ce qui existe déjà, est-ce qu'on a, tout au moins sur la partie la plus amont de la description que vous nous faites du, du chemin de prise en charge. Est-ce que, par exemple, il y a là une piste pour l'évolution des maisons des adolescents, tout au moins pour la partie santé ?
Alors, c'est une des questions très difficiles. Les maisons des adolescents, quand on leur montre les critères d'ultra-haut-risque, ils disent qu'ils sont tous dans les critères ultra-haut-risque. Et du coup, ils adhèrent assez peu à cette notion que peut-être ils peuvent avoir, ça peut être la porte d'entrée. Finalement, les patients qui nous sont adressés par la maison des adolescents, et c'est des patients qui ont déjà les deux pieds dedans, avec vraiment des symptômes psychotiques déjà assez marqués. Et je peux comprendre cette difficulté d'adhérer à ça. C'est-à-dire que moi, le cheminement, il a vraiment été de dire les patients que je vois, ça fait 5 ans qu'on aurait pu faire quelque chose, et puis finalement, bon. Donc la vraie difficulté, c'est ce manque de vision, y compris les maisons des ados. Finalement, ils ont peu de vision sur le devenir à long terme. En plus de ça, les jeunes sont très mobiles et très labiles. Donc c'est très difficile, même quand ils veulent le savoir. Les établissements aussi. Les établissements, ça peut être une porte d'entrée vers un accès aux soins. Mais ils ont très, très peu de recul sur savoir ce qu'ils deviennent. Ils changent d'établissement, ils ne savent plus ce qui se passe. Et c'est normal, puisque ce n'est pas leur fonction. Donc, si on a, c'est évident que les maisons des adolescents ont un rôle à jouer là-dedans. C'est évident qu'il faudrait adapter un certain nombre de et implanter un certain nombre d'outils, ce qui est en train de commencer à se faire dans certaines maisons des adolescents, pour qu'on puisse repérer, en tout cas ceux qui ont eu un risque d'évolution vers la psychose, puisque là il y a quand même des éléments plus forts. Et puis de toute façon, quand je liste tout ce qui est fait, entretien motivationnel, thérapie familiale, etc., c'est des choses qui se font pratiquement dans toutes les maisons des adolescents. Après ça, la difficulté est de reconnaître et d'articuler tout ce parcours. Donc oui, bien sûr, les maisons des adolescents doivent participer à ça. Il y a la question des établissements scolaires et du lien qu'il y a à avoir et de l'information qu'il y a à faire. Il y a la question centrale des généralistes. Et puis, il y a la question de ce que je n'ai pas beaucoup développé, mais qui est au cœur de tout ça, c'est comment accompagner le jeune à l'extérieur lorsqu'il n'y a pas un tampon de la MDPH. Parce qu'au fond, il faudrait des SAMSA ou des SAVS, etc., etc., sauf que vous n'y avez droit que quand vous êtes avec le tampon de la MDPH. Donc aujourd'hui, il n'y a pas accès à ça, à moins d'avoir une case particulière. Je ne sais pas, ça clairement, c'est un frein. C'est tout bête, mais... Enfin, c'est pas tout bête, mais...
J'ai une seconde question, après je vais en laisser d'autres, je vais peut-être louper quelque chose dans votre présentation. Vous avez évidemment souligné qu'une partie de la difficulté, y compris la difficulté de suivi et ces patients qu'on perd au passage, c'est la difficulté dans laquelle on est beaucoup à essayer de construire des filières jeunes adultes entre les grands ados et les jeunes adultes, et cette nébuleuse qu'on a du mal à décrire, y compris tous ceux qui ne sont pas connus du système de santé en pédopsychiatrie. Cela étant, on se situe plutôt dans quelle tranche d'âge ?
15-25. 15-25, 15-30. Donc c'est en plein, c'est là où ils partent faire des études ailleurs, c'est etc., etc. Il y a une chance, quand j'ai dit il y a l'organisation en France a éventuellement des atouts, c'est la question de l'organisation en territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réussir à mailler mieux pour que d'une structure à une autre, ce soit un tout petit peu moins idéologique et qu'il y ait une meilleure circulation de l'information pour qu'il y ait un suivi, éventuellement par des outils technologiques, pourquoi pas. Mais du coup, on a cette capacité à s'appuyer sur les liens avec les conseils locaux de santé mentale, à créer des choses. Je pense qu'il y en a beaucoup, il y a encore beaucoup de choses à créer, mais clairement, ça, c'est un atout sur lequel aujourd'hui on ne s'est pas encore suffisamment appuyé dans ce champ-là. Les liens avec les associations locales, etc., etc.
Bon, écoutez, alors, merci beaucoup. Thank you.